Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Très bonne soirée avec le club sang et or. On va parler de l'actualité du Rodez Aveyron Football en deux temps. Une première partie en direct jusqu'à 20h30 et une deuxième partie à retrouver en podcast sur notre site où l'on reviendra plus en détail sur la carrière de notre invité. Jean-Charles Virlogeux est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Notre invité a inscrit un triplé, le premier de l'histoire de la remontée en Ligue 2 pour le Rodez Aveyron Football. C'est Eric Arconte, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Vous avez amené un petit cadeau d'ailleurs.
Oui, j'ai ramené le ballon du triplé avec moi.
Dédicacé par toute l'équipe?
Non, je vais le dédicacer aujourd'hui.
Ah d'accord, donc pour l'instant il est vierge.
Oui, il est vierge pour le moment.
Il a été juste un peu... il a subi des petits coups de patte, on va dire.
On peut vous le dédicacer, nous aussi, si vous voulez.
Ouais, ok, pas de problème.
Bon, je pense qu'il vaut mieux le laisser à toute l'équipe. Je vous le
dis. Il va sortir du studio, il va vite effacer.
Oui, voilà, c'est ça.
On va avoir raison.
La chiffonnette magique. On va revenir évidemment sur la rencontre, riche en émotions qui vous a opposé face à Caen et que l'on a vécu. Quel match, on a envie de dire, pour planter le décor. Est-ce que vous êtes redescendu un petit peu de ce nuage sur lequel vous étiez samedi soir?
Bien sûr que je suis redescendu, parce que si je reste sur mon petit nuage, je pense que je ne serai pas concentré pour la suite. Donc le plus important, ça a été de profiter avec ma mère les deux jours qu'on a eus. Et là, cette semaine, je suis revenu pour revenir au travail.
On a parlé du ballon du match à l'instant. Vous lui avez trouvé une place déjà à la maison
oui,
pour l'installer?
À côté de mon lit.
C'est vrai?
Ouais, elle va y rester.
Bon, il n'a pas dormi avec vous quand même?
Non, pas du tout.
Bon, on rappelle que vous êtes le premier donc à inscrire un triplé avec Rodez depuis la montée en Ligue 2. Alors, on a cherché... Qui était votre prédécesseur dans les grimoires, hein? Il a fallu carrément remonter dans les grimoires d'avant l'Internet. Non, pas tout à fait. Ça date de juste avant la montée en fait en Ligue 2. Florian David avait inscrit un triplé face à Dunkerque en National en février 2019. Et alors si on étend aux autres matchs que le championnat, à la Coupe de France, il y a eu aussi un triplé de Khaled Ayari. Souvenez-vous, en 2018 contre Druel et de Joris Chougrani en 2015 contre La Bastide. Ça ne nous rajeunit pas. Et puis alors, si on veut vraiment remonter encore plus loin, là, on est dans les grimoires. En championnat, David Suarez avait inscrit un triplé contre Grenoble en CFA. C'était lors d'une soirée glaciale, moins 5 degrés au stade Paul Lignon, lors de l'hiver 98-99, sous la houlette de Frédéric Hans.
Il n'y en a pas eu tant que ça, donc si on comprend bien.
Alors, il y en a peut-être eu quelques-uns entre les deux, quand même, en CFA. On n'est pas exhaustif là-dessus, mais c'était pour prendre un exemple un peu ancien. Les deux derniers, en tout cas, ce sont bien ceux de Florian David et de Khaled Ayari. Vous avez réussi un triplé, mais aussi un coup du chapeau samedi, Tahiri. Est-ce que vous connaissez la différence?
Non, pas du tout.
Alors, trois buts de suite pour votre équipe, et pas seulement trois buts dans un match. C'est-à-dire que vous avez marqué... Trois buts de suite pour votre équipe. Alors apparemment, maintenant, on peut dire coup du chapeau, même pour trois buts non consécutifs. Mais de mon temps, n'est-ce pas, on disait qu'il fallait que ça soit trois buts de suite.
La fameuse télé en noir et blanc et tout ça, c'est ça?
Oh, mais même jusqu'à plus récemment. Bon, en tout cas, il y a un titre qui va vous échapper. Pas celui du coup du chapeau, donc, mais peut-être celui du plus beau but du match. Allez, si vous êtes d'accord, Lorenzo Rajao. On va l'appeler comme ça, hein. C'est vraiment le premier but, c'est vraiment Samba do Brasil, coup du sombrero, extérieur pied gauche dans l'angle fermé, c'est presque en train de devenir une sorte de signature de sa part. Il y avait déjà un peu de ça dans son but contre Angers. Vous êtes d'accord? C'est le plus beau but du match?
Moi je suis très d'accord avec vous.
Vous êtes sport.
Franchement je suis très d'accord avec ce que vous venez de dire, il a marqué un magnifique but, content que ça soit arrivé tôt, et voilà.
Oui, c'est vrai que ça met Rodez dans les meilleures dispositions forcément pour la suite du match.
On aura évidemment l'occasion de reparler du scénario du match, mené 2-0, être repris 2-2, puis 3-2 avant la mi-temps, avant de connaître une deuxième mi-temps un peu plus folle. Avant ça, on va s'arrêter sur vos buts, Tahiri. Parmi les trois, est-ce qu'il y en a un que vous préférez tout particulièrement?
Le deuxième, parce que c'est le but égalisateur. Et je pense que ça a remobilisé tout le monde. Parce qu'il faut savoir que mener 2-0 et repartir au vestiaire à la mi-temps à 3-2, mentalement, on a pris un coup. Mais comme j'ai dit, grâce au coach, avec le discours qu'il a eu, on est revenu comme des guerriers. C'est vraiment le deuxième but qui a remobilisé tout le monde.
Donc votre deuxième but, le troisième but de Rodez, que l'on soit d'accord. Donc c'est en deuxième période. On revient juste un instant pour remettre le contexte. C'est une phase de petite possession où Rodez a le ballon avec notamment Lionel Messi qui envoie un long ballon pour la poitrine de Clément Després en une touche, qui trouve Lorenzo Rajao en une touche, qui envoie Kylian Correa dans la profondeur et puis derrière il vous sert parfaitement bien.
C'est ça.
Ouais, bah on est d'accord. Hein. Enfin, en tout cas, ouais, ce deuxième but, on a beaucoup aimé la justesse de cette contre-attaque. Et c'est vrai qu'en plus, c'est le but du 3 partout. Il vient illustrer la maturité qu'est en train de démontrer Rodez dans ses phases de construction. La vista de Rajo, la vitesse sans la précipitation chez Corredor et chez vous, hein, évidemment, pour conclure. Au Club Saint-Yor, on avait déjà noté ce progrès, parce qu'on n'est pas complètement bigleux, lors de la victoire à Dunkerque. Didier Santini avait estimé que c'était aussi dû au placement de l'équipe adverse. Mais ce week-end, il a quand même reconnu le cap que votre équipe est en train de franchir dans le jeu, y compris lorsque les attaques sont plus lentes. Là, c'était vraiment une attaque express. Alors, certes, votre coach reconnaît qu'on n'en est pas encore à jouer comme l'Espagne ou comme Manchester City.
On est capable d'être en transition, on est capable de sortir les ballons au sol et d'aller vite vers l'avant, de garder les ballons. On pourrait encore plus garder, si on voulait, les ballons, on l'a fait. Mais on voit qu'on est jeune, il nous manque encore de la maturité, donc il faut, de temps en temps, c'est presque ben moi qui leur dis non, je veux pas de possession, quoi. Parce que je sais qu'ils sont capables de la garder, franchement. Mais il manque, on est jeune, il manque encore beaucoup de maturité pour à quel moment ils commencent certains, mais il faut que certains joueurs franchissent vite le pas parce qu'ils ont les moyens, les capacités à aider, à savoir à quel moment il faut garder, puis d'un seul coup accélérer, puis ralentir, et puis monter, et puis... C'est trouver le juste milieu. Je trouve que même à l'entraînement, même à Auxerre, quand tu revois, il y a plein de phases de jeu où ils ont vachement bien progressé. Et maintenant, il faut qu'ils en prennent vraiment bien conscience.
Thierry Carconte qui est notre invité dans le Club 100 heures. Alors, on en a parlé avec le coach à l'instant. Attaque placée, attaque éclair. Vous avez une préférence sur le style de jeu à adopter ?
Moi, franchement, les attaques éclair, c'est ce que j'aime le plus. Et franchement, ça me fait plaisir d'être venu au RAF parce que le style de jeu, il me correspond pleinement. Ce que le coach il demande, ça me plaît pleinement.
Alors, c'est quoi le style de jeu du RAF selon vous ? Ça correspond à quoi ?
Pour moi, c'est le jeu vers l'avant, c'est le jeu dans les carrés. Pour moi, c'est ça le style de jeu du RAF. On attaque tous ensemble, on défend tous ensemble, et voilà.
Le festival offensif de Rodez, parce que c'était ça, hein, samedi, a été parachevé par le but 100% collègue de Willy Tiounoussa sur une passe de son grand pote Amad Nguyamsa. 100% ou presque, hein, parce que la petite louche de Bradley Danger pour lancer Nguyamsa, ça aussi c'était un peu Brésil hein, quand même. Bradley Danger, je sais pas comment on pourrait dire. Avec ses 5 buts en tout cas,
bel accent.
Rodez devient la deuxième meilleure attaque du championnat. Vous êtes des vrais canonniers.
C'est franchement ça. Moi, comment vous dire, c'est ce qu'on travaille à l'entraînement. C'est comme je vous ai dit. Pour moi, on a un jeu d'attaque. On attaque ensemble. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est la deuxième meilleure défense de Ligue 2. La meilleure attaque de Ligue 2.
On va y venir à la défense.
C'est sûr qu'il faudrait aussi qu'on travaille un peu sur la défense. Mais comme le coach l'a dit, on est jeunes. On est une équipe de jeunes. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc je pense que pour créer une très très bonne équipe, ça va prendre du temps, mais ça va prendre.
Et finalement, ce match contre Caen, c'est un peu un révélateur pour vous, parce qu'on rappelle qu'Andreas Untonji ne pouvait pas jouer du fait de la connivence entre les deux clubs, entre Caen et Rodez, par rapport à lui. Du coup, ça tombe à pic pour vous, quoi.
Ça tombe à pic, oui. Après, que Andreas, il aurait été là ou pas, la concurrence, elle est saine. Donc c'est sûr que ça fait plaisir parce que j'ai pu avoir un autre match titulaire. Mais franchement, on s'encourage tous, qu'il y ait 3 attaquants, 4 attaquants, 5 attaquants. On s'encourage tous et c'est ça le principal.
On va parler du match, évidemment. On en a parlé avec les phases offensives, mais on va s'intéresser aux phases défensives parce que dans ce match, on a appris évidemment que vous étiez capable de prendre des buts, malheureusement, hein, jusqu'à 3 dans une mi-temps. Rodez, c'est la 5e pire défense du championnat. Donc on fait le parallèle, 2e meilleure attaque, 5e pire défense du championnat. L'équipe est passée par tous les états samedi, hein. On l'a dit, une très bonne première demi-heure. Vous êtes d'accord avec ce constat ?
Oui, c'est ça.
Notamment un quart d'heure à mettre à l'honneur avec ses 2 premiers buts. Et puis, en fin de première période, un petit trou d'air. Comment vous l'avez vécu, vous, sur le terrain, ça, déjà ?
Non, moi, je pense que le fait de mener 2-0 dès la 20e minute, je pense qu'on n'avait pas été forcément préparé à ça.
C'est rare pour Rodez, d'ailleurs, de mener de 2 buts d'écart. C'est assez inédit pour Rodez. Est-ce que c'est pour ça que ça vous a déconcentré ?
Assez inédit, non, pas inédit, parce qu'il faut s'attendre à tout dans un match. Mais c'est vrai que en sortant d'une défaite contre Auxerre 3-1 et venir à Poligno et mener 2-0 tout de suite, je pense que inconsciemment, on s'est laissé aller. Mais moi, ce que j'ai aimé, bien sûr, c'est la reprise, la reprise de conscience qu'on a eue. Et voilà.
Parce qu'on rappelle que face à Angers, évidemment, vous étiez mené 1-0. Derrière, il y a eu 4-1. Donc forcément, vous avez eu la possibilité de gérer là aussi une avance. Mais on va dire qu'il fallait réagir par rapport à Angers. Là, c'est vous qui meniez un petit peu la bataille et qu'il fallait un peu maîtriser le match. C'est dur de maîtriser un match ?
Justement, c'est très très dur de maîtriser un match. Surtout que dans le foot, c'est toujours le troisième but, il est toujours le plus important. Mais comme je vous ai dit au début, je pense que grâce au discours du coach et à la mentalité qu'on a en ce moment, et même je dis en ce moment, je pense que l'identité du Raf, comme je l'ai dit, je l'ai compris. Et je pense qu'avec le discours du coach, c'est pour ça qu'on est revenu.
Donc but important, le premier, le troisième, cinquième, on est d'accord sur ces petits points de repère ?
Comment, j'ai pas compris ce que...
Les buts importants, le premier, le troisième, le cinquième, c'est des tournants dans un match ?
Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'à 3-0, le match, il aurait pas été le même. Parce qu'on a eu que des occasions quand même. Il y a eu Willy qui a eu un face-à-face, qui a été dévié. Je pense qu'à 3-0, le match, il aurait pas été pareil. Mais bon, s'il faut signer ce scénario-là pour tous les matchs qui sont à suivre, je le signe tout de suite.
Bah pour les spectateurs, je pense aussi, même s'il y a eu quelques frayeurs justement à la mi-temps.
Ouais. C'est vrai que c'est un trou d'air que vous avez payé cher, hein, parce que toutes les équipes ne sont pas punies non plus de 3 buts pour avoir lâché prise pendant 10 minutes dans un match. Mais effectivement, c'est ce qui est arrivé à Rodez. Évidemment, on s'est dit que votre entraîneur allait perpétuer la tradition de cette saison, parce que... Faut dire qu'à Rodez, il y a la causerie d'avant-match et puis il y a la gueulante de la mi-temps. Et il n'a pas gueulé tant que ça, apparemment. Un chouïa, il nous a dit lors de l'après-match. Explication.
Il faut les remettre un peu à l'endroit dans les vestiaires et dire qu'ils vont gagner, mais qu'il faut rester dans nos principes, dans notre jeu, et que si on baisse notre concentration, notre rigueur, comme on l'a fait pendant 10 minutes, 15 minutes, voilà, on peut être très moyen et en danger contre des très bons joueurs de football. Ouais, j'ai gueulé, mais au moment je leur ai dit qu'il faut pas oublier ce qu'ils ont fait dans les 25-30 premières minutes et qu'ils allaient gagner le match en repartant de la même façon dont on avait joué ces 25 premières minutes et qu'il n'y aurait aucun problème.
Donc on a l'impression, dans les paroles de votre coach, que vous êtes déjà parlé un petit peu avant que lui intervienne à la mi-temps. Ce fut le cas ?
Comment, j'ai pas compris ?
Dans cette mi-temps, on a l'impression que vous, entre vous les joueurs, vous êtes parlé avant que lui intervienne pour se dire les petites choses qui n'allaient pas justement en fin de première mi-temps.
Oui, c'est sûr qu'on se parle avant, parce qu'il y a la frustration, donc on est obligé de dégager, de dire ce qui se passe. Et c'est sûr que le coach, après, il en remet une couche. Mais ça, c'est son rôle.
Il crie fort ?
Il crie fort, mais là, il nous a pas trop engueulé. Il y a eu pire. Je pense que, comme j'ai dit, le coach, il comprend son groupe. Il sait à quel moment crier, à quel moment pas crier. C'est sûr qu'il nous a dit que c'était inadmissible ce qui venait de se passer. Mais il nous a surtout dit qu'on allait gagner le match, comme il a dit. Et de rejouer les 20 premières minutes qu'on a jouées, et de les jouer les 45 qui allaient rester. Voilà.
Belle vista de la part de votre coach, effectivement. Et vous, alors, avant qu'il prenne la parole, vous vous êtes dit quoi entre vous ? Parce qu'on rappelle, c'est 3 buts vraiment sur des duels perdus. Hein.
2 dans le domaine aérien, à la suite d'un corner, le premier, à la suite c'est un centre pour le deuxième. Et oui, finalement, quasiment les 3, c'est sur des duels perdus de la défense.
Il n'y a pas d'erreur de marquage, voilà, en tout cas sur les 2 premiers.
Non, quand on est rentré, on s'est dit les vérités. On s'est dit que c'est inadmissible de mener 2-0 et en 10 minutes prendre 3 buts. C'est pas possible. Comme je vais le répéter encore, avec la mentalité qu'on a, on peut pas encaisser 3 buts comme ça. Mais
on rappelle qu'il y a eu aussi peut-être un changement déterminant pour cette équipe de Caen, c'est la rentrée de Michael Lebihan devant, qui a apporté du soutien notamment à Alexandre Mendy. Peut-être que ça a pu y jouer à la 30e minute de jeu à peu près.
Moi, je pense, comme je vous ai dit, je pense que c'est le fait de mener aussitôt qui nous a fait inconsciemment baisser de niveau, avec tout le respect que j'ai pour Michael Lebihan. Mais quoi, quand on est rentré dans le vestiaire, on s'est dit que c'était inadmissible ce qui s'était passé, et qu'en deuxième mi-temps, on devait aller montrer au public que c'est bien nous qui allons gagner le match.
Il fallait retrouver la grinta propre à cet effectif. Alors c'est vrai que, c'est ce que disait le coach, certains joueurs ont été absents pendant 10 minutes, un quart d'heure, même si tout le reste du match, toute l'équipe a été bonne. C'est ce qu'il a en substance résumé. Et effectivement, on parlait de ce fameux troisième but. C'est vrai qu'il aurait pu venir, ce troisième but. Il n'est pas venu, mais votre coach reconnaît que, en conservant cet état d'esprit un petit peu plus longtemps, c'était possible.
Il y avait l'opportunité, mais à un moment, on a commencé à surjouer un petit peu. On a eu pas mal d'opportunités dans les 16 mètres et chaque fois, on faisait la passe à son copain. On n'était pas dans la première intention. On touchait trois fois le ballon. On s'est mis à jouer facile. On s'est cru pour d'autres à un moment et à sortir sur le porteur alors qu'on était au pressing souvent. Et puis, d'un seul coup, on pensait que c'était fini, quoi. Comme je l'aurais dit à la fin, félicitations. Mais il faut se rappeler quand même de ces 10-15 minutes, il faut qu'elle fasse mal, quoi. Alors on fait mal à la mi-temps, ces 10-15 minutes. Et on l'a payé cash, et ça c'est le football. Mais ça nous fait du bien de se faire taper un peu sur les fesses.
Ouais, surtout quand il n'y a pas la défaite au bout. C'est un rappel sans frais, on va dire. On s'est régalé quand même, hein, il faut le dire, samedi, à voir Rodez. Et ça arrive de plus en plus souvent. Votre coach, du coup, avec ce scénario, a même parlé d'une pièce de théâtre fantastique pour le public. Parce qu'effectivement, elle a condensé tout ce qui fait votre équipe en un match. Et c'est ce qui en fait, on le disait samedi, une équipe attachante. C'est pas étonnant que le public soit au rendez-vous et qu'il vous soutienne, même quand il y a des coups de mou. Votre coach a salué ça aussi. 3 buts pris en 10 minutes et un public qui siffle pas à la mi-temps. Alors du coup, que peut viser Rodez avec ce jeu? Le groupe peut avoir de l'ambition, évidemment, hein, pour la suite en jouant comme ça. Didier Santini aime bien vibrer sur son banc. Hein, la pièce de théâtre, lui, il en profite pas autant que les spectateurs parce qu'il a un peu de boulot. Mais il voudrait quand même aussi travailler un peu sur la constance.
Il y a ce côté caractère, ce côté de folie, ce côté absence par moment. Donc là-dessus, il faut que j'arrive avec Aymeric à vraiment bosser dessus. Mais ils ont du caractère, ça on le sait. Qu'ils ont du caractère, c'est une équipe très très jeune. Donc il y a ce côté caractère, ce côté de folie, ce côté absence par moment. Donc là-dessus, il faut que j'arrive avec Aymeric à vraiment bosser dessus. Mais il y a ce que j'aime, mais j'aimerais aussi que... En tant qu'ancien défenseur, on soit plus solide dans certains matchs. On a vu Laval encore qui est premier, qui gagne 1-0 sur coup de pied arrêté et qui est dominé a priori, mais qui fait un super match défensif. Donc il faut être quand même plus costaud défensivement. Et quand je vois tous les joueurs que j'ai en ma possession, il y a de la qualité. Et défensivement, on peut faire plus. Alors c'est vrai qu'après, on a un jeu qui est porté vers l'avant, où ça pousse, ou des fois même à 2-0, des opportunités qu'on a eues, il manquait des fois un peu un équilibre, mais ce n'est pas là où on s'est fait avoir.
Eric Arconte qui est notre invité, l'auteur du triplé ce week-end face à Caen. Au moment où on se parle, Rodez est 6e pendant cette trêve internationale. Après le match, vous avez même parlé de top 5. Ça, c'est un objectif?
Déjà, le premier objectif, c'est sûr, c'est de se maintenir le plus vite possible. Donc, voilà. Après, je pense qu'on est une équipe d'ambition. Donc, si ça arrive, bien sûr qu'on va prendre. Mais c'est vrai que le plus important, là, c'est le match.
Allez, on va élargir au top 10. Est-ce que, justement, arriver à se glisser dans le top 10, ça passe par une rigueur supplémentaire, comme annoncé précédemment?
Bien sûr, ça passe par une rigueur. Là, on n'est qu'à 10 journées du championnat. Le plus dur, il reste à venir, parce qu'il y a les matchs retour. Les matchs, allez, ils ne sont même pas encore finis, on va croire les matchs retour. Donc, c'est vrai qu'à partir d'un moment de la saison... On verra si le maintien sera déjà acté, c'est sûr qu'on verra pour prendre le plus de place possible.
Allez, on vise 45 points, 46 pour le maintien, un peu comme l'année dernière.
On espère le plus possible en tout cas.
Bon, la suite pour Rodez, du coup, c'est d'abord un match amical à Clermont vendredi. Ce sera un bon match de trêve hein, face à une équipe de Ligue 1. Vous ne croiserez pas Maury Diaw, le portier de Clermont, qui a pu rejoindre la sélection du Sénégal 24 heures après avoir reçu un pétard hein, qui a entraîné l'interruption du match de Ligue 1 entre Montpellier et Clermont Foot. C'est une affaire qui rappelle forcément ce que Rodez a vécu à Bordeaux. Montpellier risque d'ailleurs de prendre cher lui aussi. Au passage, on a vu moins de commentaires d'ailleurs sur le net pour s'étonner que le match n'ait pas repris et sur le fait que Diaw puisse rejoindre sa sélection quand même. On va dire que l'enjeu d'un match en milieu de saison permet peut-être au joyeux monde des réseaux sociaux et celui du football aussi de davantage garder son sang-froid. Si on en parle de ce match, c'est aussi parce que le retour de Rodez à Bordeaux, visiblement, c'est sûr, c'est dans pas très longtemps, c'est fin octobre, et que de l'aveu de votre coéquipier Lorenzo Rajo, il s'agit quand même d'une étape particulière cet automne pour votre équipe.
Je pense que ça va faire du bien à toute l'équipe une fois que ce match-là sera passé. Je pense à Bubu aussi, parce que je pense que ça trotte un peu dans sa tête. Il attend ce match avec impatience. Et je pense que nous, ça ne va rien changer. C'est un match comme un autre. Mais une fois que ce match sera passé, je pense même pour nos supporters, on pourra vraiment passer à autre chose. Quoi. C'est un match de foot. Hein. Je pense qu'on sera... Pas de doute à avoir sur la sécurité ou quoi. Hein. Je pense qu'ils ont retenu de leurs erreurs. On a des matchs avant, donc il faut prendre des points avant. Et il y aura ce match-là, ça sera un match de plus qu'il faudra aller là-bas pour gagner. Tout simplement, il y aura sûrement une belle ambiance. Ça va justement, il faudra se servir de cette énergie-là pour la transformer en énergie positive.
Et avant le match de Bordeaux, il y aura eu la rencontre de Apollignon contre Bastia le 21 octobre prochain. Vous, vous êtes prêté par Brest, Taïric. Vous n'étiez pas à Rodez la saison dernière, mais est-ce que vous avez eu des échos de ce qui s'est passé? Déjà, est-ce qu'on en parle encore dans le vestiaire à l'heure actuelle de cette rencontre face à Bordeaux?
Des échos, bien sûr que j'en ai eu, parce que ce qui s'est passé, c'est sûr que tout le monde l'a entendu. Dans le vestiaire, on n'en parle pas, parce que on est concentré sur les matchs qui sont à venir. Je pense que la semaine où on joue contre Bordeaux, peut-être qu'on en parlera, comme on n'en parlera pas. Mais là, on est concentré, on est focus sur le prochain match qui est Bastia. Donc
il y a d'autres objectifs avant Bordeaux.
Bien sûr. Le match de Bastia, chaque match c'est une finale. Ça veut dire on peut pas déjà penser au match suivant alors qu'il y en a déjà un. Donc là, on est sur Bastia et le reste, on verra après.
Bon, entre-temps, il y aura eu également ce match amical face à Clermont. Ça, c'est en fin de semaine et donc retour au championnat à partir du 21 octobre prochain.
Et c'est sûr que le fait que vivement que le match soit évacué, c'est probablement plus prégnant chez les joueurs qui étaient là la saison dernière et qui ont vécu notamment ce match à Bordeaux.
Et ça, c'est une certitude, effectivement. Ouais. Taïric Arconte, qui est notre invité. Fin de la première partie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez évidemment avec nous. La deuxième partie, c'est à vivre sur notre site internet www.radiototep.fr en podcast, bien sûr. Taïric, merci beaucoup pour cette première partie et à tout de suite pour la deuxième.
Tout de suite.
Totem, le club sang et or. Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Deuxième partie du club sans heure avec toujours notre invité, l'attaquant qui a marqué ce triplé formidable ce week-end face à Caen, Taïric Arconte. Taïric, alors vous n'avez pas subi l'un des rendez-vous préférés de Jean-Charles Virlogieux. Eh bien, on va le faire subir dans cette deuxième partie, Jean-Charles.
C'est la question conne, réponse conne.
Le rendez-vous de la question à la con. En gros, je vous mets le contexte, c'est une question qui d'apparence est très stupide, mais il y a une vraie réflexion normalement derrière. Jean-Charles, c'est
à vous. Oui, quand même. C'est-à-dire qu'on a parlé de votre triplé, bien sûr, votre coup du chapeau. On sait que, d'ailleurs, on le verra sur notre site internet, vous posez avec votre ballon. Vous avez, c'est le privilège de celui qui a marqué 3 buts. Il part avec le ballon du match. Mais on sait qu'il y a plusieurs ballons dans un match. Donc comment on sait que c'est vraiment celui avec qui on a marqué?
On est sur derrière.
Qui a été con celle-là?
Parce que moi, je sais que c'est le ballon du match, parce que quand j'ai marqué mon dernier but, quand je suis sorti, on n'a jamais changé de ballon sur le terrain.
Ah.
Du coup, je sais que c'est le ballon du
petit
match.
Petit repère. Il fallait être concentré, Jean-Charles. Vous l'avez pas vu le ballon.
Non. Ouais,
donc du coup, Taïric a été plus concentré que vous sur cette action. Ça. Et il a pu repartir avec le fameux ballon du match. Bon, on va s'intéresser à vous un peu plus en détail, Taïric. Vous êtes né en Guadeloupe, vous avez fait ensuite vos valises pour rejoindre une autre île, la Corse. Vous avez découvert la Ligue 2 en prêt avec Ajaccio. Bon, à peine une trentaine de matchs avec soit Ajaccio, soit Brest avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Prêté cette saison par Brest à Rodez. D'ailleurs, petit point stat, en 6 matchs avec Rodez, vous avez marqué autant qu'en une saison complète avec les autres clubs en Ligue 1 et Ligue 2. C'est donc de bon augure, si je comprends bien, pour cette saison.
C'est sûr que c'est surtout le travail qui paye. Je pense après j'ai commencé à jouer avec Ajaccio, j'avais 17 ans, donc j'avais pas du tout de repères. Plus le temps passe, plus les repères ils arrivent et plus les stats elles vont arriver.
Le football, c'était pas la seule discipline de votre enfance, il y avait le taekwondo également, c'est ça?
C'est ça.
Vous avez excellé d'ailleurs dans cette compétition étant plus jeune, champion de la Guadeloupe en 2017 et c'est vice-champion Antilles-Guyane.
C'est ça.
Et pourtant une carrière dans le foot.
C'est ça. Mais du coup, j'ai dû faire un choix. Parce que les horaires d'entraînement ne correspondaient pas du tout.
Mmh.
Donc du coup, j'ai pris la décision d'arrêter le taekwondo.
Pourquoi? C'est une décision qu'il fallait prendre. Et...
Parce que même si j'excellais dans les deux, je pense que j'avais une petite préférence quand même pour le football. Pour mon avenir, je me voyais plus footballeur professionnel que taekwondo. Après, le taekwondo, je ne l'ai pas mis de côté totalement. Quand je retourne en Guadeloupe, j'essaie de retourner dans mon ancien club pour voir ce qu'ils sont devenus. Parce qu'il faut savoir que la mentalité que j'ai aujourd'hui de jamais abandonner, c'est ceux qui me l'ont apprise.
Ça vient du taekwondo?
C'est ça.
Mmh. Donc et ça peut servir dans le foot aussi?
Bien sûr que ça peut servir dans le foot pour tout, pour la souplesse, pour, plein pour plein de choses. Donc,
si on s'embrouille avec un adversaire aussi.
Non, les arts martiaux, c'est que pendant tes heures d'arts martiaux.
C'est interdit par les lois du football.
Si tu l'utilises dehors, c'est considéré comme une infraction. Mm-hmm. Donc j'essaie quand je retourne en Guadeloupe, j'essaie quand même de retourner dans mon club de taekwondo pour pas oublier d'où je viens.
Il me semble que Zlatan Ibrahimovic avait pareil un domaine de compétences.
C'est ça, c'était ça.
Taekwondo aussi.
C'est ça.
Ah, je croyais que vous disiez, il le pratiquait de temps en temps sur.
Non, j'allais pas jusque là, mais apparemment, il avait lui aussi un bon niveau. Enfin, je sais pas si vous y connaissez plus que moi avec le domaine de compétences de Zlatan, mais apparemment, il avait lui aussi un plutôt bon niveau.
Ouais, il avait un très bon niveau, mais après même à 40 ans, 39 ans, je pense qu'il continue, mais. 30, 40 ans, c'est ta fin de carrière, tu peux te permettre de faire des choses à côté. Moi, je suis en début de carrière, donc il faut que je me concentre pleinement sur le foot.
Bah justement, revenons sur les premières étapes de votre carrière. Comment ça se passe, le fait de partir de la Guadeloupe pour la Corse? C'est dur?
Ça a été dur au début. Je suis parti, donc dès que j'ai fini ma classe de seconde, je suis parti en Corse, loin de mes parents. Franchement, c'était très très dur au début, mais les Corses, ils m'ont très bien accueilli. C'est une île comme la Guadeloupe. Ils m'ont pris comme un membre de leur famille.
Ça aide, ça, que ça soit une île aussi?
Bien, ça aide beaucoup. Parce que, on le sait tous, les Corses, ils sont aimables, mais ils n'aiment pas que les gens viennent faire n'importe quoi sur leur île. Et ils savaient que moi, j'étais venu en tout mais tout honneur, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et ils m'ont accueilli comme leur enfant, et ça m'a fait très plaisir.
Donc, partir de son île, aller dans un endroit à l'opposé quasiment du globe, c'est une des choses les plus dures à vivre, ça, quand on est footballeur?
C'est dur par rapport au... En soi, le départ, il n'est pas dur. Mais le fait d'être éloigné de mes parents tôt...
On est d'accord que c'est une décision choisie?
Oui, c'est choisi. Bien sûr que c'est choisi. Si ce n'est pas choisi, c'est qu'il y a un problème. Mais bien sûr que c'était choisi. Je devais partir seul. De toutes les façons, mes parents, ils travaillaient en Guadeloupe. Ils pouvaient pas se permettre de quitter de me suivre. Alors que, faut savoir, quand j'ai signé à Ajaccio, j'ai pas signé un contrat professionnel tout de suite. J'avais un petit contrat. Donc, ils pouvaient pas se permettre de quitter leur travail pour le contrat que j'avais. Et voilà.
Bon, en tout cas, le premier contrat professionnel, il est venu ensuite avec Ajaccio. Et puis, derrière, il y a eu une nouvelle page avec l'arrivée à Brest. C'était un besoin d'un nouvel air, ça aussi?
Besoin d'un nouvel air, non. Je pense que c'est plutôt la suite. Avec Ajaccio, j'ai vécu une montée. Une offre, elle est venue. Il y a eu des discussions entre Brest, Ajaccio. J'ai eu des discussions avec le directeur d'Ajaccio.
Bon, le point commun, en tout cas, entre la Guadeloupe, l'île de la Corse et Brest, c'était que c'était à côté de l'eau, océan ou mer. Rodez, vous êtes un peu perdu sur le chemin
Le lac de Parloux, quand
même. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait la mer, quoi.
Mais comme j'ai dit, il y a deux choses qui ont fait que je sois venu à Rodez. Trois, même. Le style de jeu, qui me correspond. Ma mère... qui habite à Montpellier. Donc, chaque week-end, je retourne à Montpellier qu'on joue à domicile. Et la troisième raison, c'est que Rodez a été le seul club où c'est le coach qui m'a appelé pour me dire qu'il comptait vraiment sur moi. Donc, du coup, mon choix, il a été vite fait.
Quand vous avez inscrit votre triplé samedi, vous avez dit que c'était la fin d'un tunnel pour vous.
C'est sûr, parce que j'ai vécu à mon tout jeune âge, j'ai vécu des choses dans le foot, c'est dur. C'est un monde de requins, je pense que tout le monde le sait. Mes problèmes, j'en parlerai jamais, ça reste dans la tête. Moi je marche à la mentale. Le foot, c'est une question d'endurance, c'est pas le plus rapide, c'est une question d'endurance. C'est celui qui aura le plus grand mental qui va réussir. Donc comme je l'ai dit, ouais, j'ai vécu beaucoup de choses et je vis encore beaucoup de choses. Mais j'en parlerai pas, juste... Ne vous inquiétez pas, moi, j'abandonnerai jamais. Et le tunnel, qu'il soit long ou petit, je vais le traverser.
Bon, en tout cas, ce qu'on vous souhaite, c'est d'avoir plein de triplés à votre actif.
Ouais, c'est une belle lumière, en tout cas, voilà, le triplé.
Le premier pour l'instant, mais on vous en souhaite plein pendant cette saison à venir, évidemment. Et on va terminer sur un petit sourire. Alors, normalement, un petit sourire, ce sourire, c'est, si je vous dis le surnom de Titaï, ça vous évoque quoi?
C'est... Titaï, c'est le prénom que... En fait, je vais vous expliquer l'histoire. Quand j'habitais en Guadeloupe... J'habitais à Guayave, dans une cité à Guayave, donc c'est là où j'ai vécu mon enfance. Mm-hmm. Et il y avait quelqu'un qui avait le même prénom. On était à trois avec le même prénom. Donc,
fallait se différencier.
Moi, j'étais le plus petit. Donc, petit taille, ça fait petit taille. Et donc, du coup, j'ai gardé ce prénom-là.
Il y a eu des moyens tailles et des grands tailles.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Ouais,
c'est
ça.
C'est comme tout... boucle d'or, ça, non?
Ouais, c'est tout. En fait, tout au physique, quoi, finalement.
Voilà, c'est ça.
Aux différences physiques.
C'est vraiment que pour ça.
Et est-ce qu'on vous appelle encore comme ça, alors?
Bien sûr. Même les coéquipiers à Rodez, ils m'appellent comme ça. C'est un nom que je voudrais garder. J'aime bien que les gens m'appellent comme ça. Mm-hmm. Je préfère même qu'on m'appelle Titaï plutôt qu'on m'appelle Tyric. Parce que moi, je suis beaucoup dans l'affectif. Pour moi, Titaï, c'est un prénom affectif. Donc, ouais, Titaï.
Donc, la prochaine fois, quand on commentera vos actions, on peut appeler Titaï.
Bien, vous pouvez, absolument.
Ok, on a l'autorisation, Jean-Charles. J'espère que vous avez noté. Bon, le prochain rendez-vous, ça sera dès ce week-end avec la rencontre amicale face à Clermont. Après, il y aura donc la rencontre face à Bastia. 21 octobre, le rendez-vous est pris. Coché dans vos agendas sur la pelouse du stade Paul Lignon. Évidemment, retour aux affaires avec la 11e journée de Ligue 2 que l'on suivra évidemment dans l'intégrale 100 heures.
Ça va un peu mieux pour Régis Brouard.
Hein, Jean-Charles, bien le
voir de ce week-end.
Alors si on regarde exactement le classement, Bastia est 14e au moment où on se parle, avec 11 points au compteur en 10 journées. Rodez 6e, 17 points au compteur. Finalement, on pourrait presque dire que Rodez est grand favori de cette rencontre. Mais dans le football, on le sait, rien n'est jamais joué d'avance. En tout cas, Tyric, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tyric Arconte, l'attaquant phare maintenant du Rodez Aveyron Football. 3 buts inscrits lors de la rencontre dernière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci à vous.
Passez une belle semaine d'entraînement. Et donc du coup, on se retrouve évidemment, non pas ce week-end, mais le week-end prochain pour le retour officiel à la compétition.
À bientôt.
Le club 100 et or sur Totem.